Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on revient sur un véritable séisme politique. Replongeons-nous un instant, le 10 mai 1990. François Mitterrand est élu président de la République, de justesse, hein, et là, coup de tonnerre.
Ah oui, le grand basculement.
Exactement. 35 jours plus tard, aux législatives de juin, son parti, le Parti Socialiste, rafle près de 285 sièges sur 491 à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est 23 ans de domination absolue de la droite qui s'effondrent d'un coup.
C'est vrai que le vertige arithmétique est là, mais la vraie question au cœur de notre échange aujourd'hui, c'est de comprendre l'ADN de cette victoire.
Tout à fait.
Est-ce que cette majorité absolue, vraiment écrasante, traduisait une véritable adhésion idéologique et sociologique des Français, ou est-ce que c'était juste un mirage institutionnel?
Une mécanique amplifiée par la résignation du camp d'en face, en somme.
C'est ça. Et je défends plutôt cette seconde lecture. Pour moi, c'est un phénomène très conjoncturel qui est porté par l'élan de la présidentielle et par une abstention record à droite.
Alors que de mon côté, je suis vraiment persuadée qu'il y a eu un mandat profond. Une véritable lame de fond, si vous voulez. Une mutation sociologique du pays qui exigeait un changement radical.
Je vois.
Aujourd'hui, on a un peu l'habitude de voir l'Assemblée s'aligner sur le président. Mais il faut bien que ceux qui nous écoutent se remettent dans l'état d'esprit de 1981. C'était du jamais vu. Obtenir près de 38% des voix au premier tour pour le seul parti socialiste, c'est pas un accident.
C'est un score historique, on est d'accord.
Voilà. Les électeurs ont vraiment validé un désir de réforme concrète. On parle de l'abolition de la peine de mort, de la retraite à 60 ans. Et puis regardez surtout le visage de cette nouvelle assemblée.
La fameuse assemblée de 80.
Exactement. On a vu débarquer des inconnus, des professeurs, des syndicalistes. C'est la société civile de l'époque qui a pris le pouvoir, pas une simple machine électorale.
Oui, enfin, l'arrivée de ces nouveaux profils est indéniable. Mais attendez, il ne faut pas oublier la chronologie stricte de tout ça.
C'est-à-dire ?
L'Assemblée a été dissoute le 22 mai. Mitterrand venait à peine de défaire ses cartons à l'Élysée. C'est vraiment l'illustration classique de l'état de grâce. Et surtout, il faut expliquer comment on passe de 38% des voix à une majorité absolue écrasante en siège.
Ah, l'effet du mode de scrutin.
Oui, notre mode de scrutin majoritaire à deux tours, il agit comme un amplificateur redoutable. Quand le RPR et l'UDF sortent divisés, sonnés de la présidentielle, leurs électeurs restent massivement à la maison. Le système électoral écrase littéralement une opposition démobilisée. C'est pas que tous les Français se sont réveillés socialistes, c'est purement mathématique.
Je vous accorde l'effet de loupe de notre scrutin, évidemment. Mais ça n'explique pas tout. Si c'était juste la droite qui boudait les urnes, comment vous expliquez le séisme à l'intérieur même de la gauche?
Vous pensez à l'effondrement communiste?
Bien sûr. Le parti communiste, qui pesait plus de 20% dans les années 70, s'effondre autour de 16%. Les électeurs ont consciemment validé la stratégie pensée par Mitterrand depuis des années.
Siphonner l'électorat du PCF, oui.
Pour faire du PS, le leader incontesté de la gauche. C'est un choix idéologique clair.
Là, je vous avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans votre raisonnement.
Allez-y.
Vous dites que les électeurs ont consciemment voulu affaiblir les communistes pour clarifier la ligne politique. Mais alors, pourquoi ce même parti communiste, pourtant réduit à une quarantaine de députés, fait-il paradoxalement son grand retour au gouvernement? Avec quatre ministres, hein?
Ouais.
Une première depuis 1947. Si le message des électeurs était si limpide, pourquoi ressusciter au sommet de l'État l'allié qu'on vient de terrasser dans les urnes?
Parce qu'il fallait sceller l'union sociale pour lancer les réformes. Et justement, regardez la réalité des mois qui ont suivi. Cette majorité absolue a eu la force de frappe pour nationaliser les grandes entreprises.
Les fameuses réformes de rupture.
Et instaurer la cinquième semaine de congés payés. S'il n'avait pas eu ce mandat profond et populaire, jamais il n'aurait pu agir avec une telle vélocité face aux résistances.
C'est un peu comme acheter une voiture de course en regardant seulement l'énorme puissance du moteur, mais en oubliant de vérifier la taille du réservoir d'essence.
Oh, la métaphore est cruelle.
Mais c'est ça! L'élan électoral de l'été 81, c'était un moteur surpuissant, mais la réalité de l'économie mondiale, c'était le réservoir. Si l'adhésion idéologique aux réformes était si inébranlable, pourquoi ont-ils dû freiner des quatre fers dès 1983? Le tournant de la rigueur budgétaire, le principe de réalité, tout ça a percuté ce fameux mandat sociologique beaucoup plus vite que prévu.
C'est vrai, la rigueur de 83 était un choc, je ne le nie pas. Mais malgré ce freinage, l'élection de juin 1981 reste pour moi l'apogée d'une gauche unie qui a reçu, pour la première fois sous la fin République, les moyens institutionnels de repenser la société.
Je l'entends. Et pour ma part, j'y vois surtout le moment décisif où la France a compris la véritable nature de la présidentielle, une machine capable d'entraîner dans son sillage une assemblée totalement soumise par pur effet mécanique.
En tout cas, nous convergerons au moins sur ce point. Juin 81 a définitivement redessiné les règles du jeu politique français.
Absolument. C'est un point de bascule irréversible.
Au final, cet événement nous laisse une question fascinante qui résonne encore fortement aujourd'hui. Est-ce qu'une victoire électorale écrasante donne réellement le pouvoir de changer la société en profondeur ? Ou n'est-ce qu'un mirage face à la dureté de l'exercice du pouvoir ? On vous laisse y réfléchir.